Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré aux trônes et aux sceptres. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et, par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.
Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? Jésus lui dit : Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit : Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit : Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, « Suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants de terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Cette question posée par cet homme est bien une question existentielle pour tout croyant, pour les croyants que nous sommes. Nous sommes tous en quête de la vie éternelle, il me semble. Mais sa question a un caractère très personnel. Oui, il ne veut pas d'une information générale qui s'applique à toute personne. Il interroge exactement sur ce qu'il doit faire, sur ce que lui doit faire. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Sa question, frères et sœurs, révèle surtout combien cet homme se sent concerné au premier degré par la question de la vie éternelle. Et son attitude nous interpelle justement. Est-ce bien le cas aussi pour nous? La vie éternelle nous préoccupe vraiment. La réponse de Jésus montre que l'observance des commandements est le critère pour l'entrée dans la vie éternelle. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Cette liste des commandements, qui est un appel à s'abstenir de tout comportement coupable, érige et confirme que le bien que nous faisons au prochain est l'une des voies royales vers le salut. Oui, nous allons au ciel par les autres. Et honorer ses parents,
est une base solide pour apprendre à aimer et à respecter le prochain. Notre homme, nous dit l'évangile de ce jour, est irréprochable sur ce point, si bien qu'avec lui, Jésus peut aller plus loin en lui proposant une exigence nouvelle et unique. « Une seule chose te manque, lui dit-il. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Oui, c'est l'exigence éthique qui est liée à l'observance des commandements. Et par cette invitation, d'une part, Jésus fait comprendre que l'obéissance à la loi n'est qu'une étape vers la vie éternelle. D'autre part, Jésus fait évoluer la question de « qu'est-ce que je dois faire pour avoir un héritage à la vie éternelle ?» à « qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque pour entrer dans la vie éternelle ?» Il fait une mise au point et il nous montre ainsi qu'on ne fait pas soi-même son salut. Par suite, il révèle que la vie éternelle est avant tout une histoire de vie qu'il faut écrire avec lui Jésus. « Viens, suis-moi, » dit-il. De cette fait, la vie éternelle n'est pas quelque chose que l'on peut acquérir, parce que c'est ce que laisse entendre, ou du moins, c'est ce que laisse supposer l'attitude du jeune homme. Oui, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir comme on acquiert un bien, ni une récompense pour demain, pour une vie vertueuse. Oui, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Non, la vie éternelle, c'est la vie avec Jésus, dans laquelle il faut entrer tout de suite et pour toujours. « Viens et suis-moi, » dit Jésus. Bien sûr, cela est précédé d'un renoncement radical à toute espèce de richesse. Nous pouvons comprendre par là tout ce qui peut être un obstacle entre Dieu et nous. En conséquence, l'homme est invité à se déplacer de son monde paisible, protégé par la richesse. Oui, il lui faut quitter ce trop-plein pour suivre Jésus. Mais cette proposition de Jésus, nous l'avons constaté, elle met le doigt sur ce qui est la faille de l'existence de cet homme. Pour suivre Jésus et intégrer le groupe des disciples, encore faudrait-il être libre. Une seule chose te manque, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Notre homme n'a pas le courage de son vouloir. Lorsque Jésus lui propose de changer la nature de son trésor et d'investir dans une autre réalité, « Oui, tu auras un trésor au ciel, lui dit-il. » « Va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, frères et sœurs, est une invitation à faire du bien pour devenir riche du bien que l'on fait. » La générosité envers les pauvres est aussi une voie royale pour amasser un trésor, pour bien construire l'avenir et obtenir la vraie vie. Mais notre homme vient de comprendre que ses richesses le tiennent, comme s'il était ficelé, dépendant comme un drogué. Il s'en va tout triste, nous dit l'Évangile. Et sa tristesse résonne comme un aveu. Jésus ne peut que constater. Il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, lui qui n'a pas un endroit où reposer la tête doit admettre que les hommes préfèrent très souvent leur compte en banque à l'amour qu'il leur propose. Et cette image, frères et sœurs, doit rester choquante pour nous, car Jésus l'a voulu telle. Il a voulu telle pour nous alerter. « Oui, il est vraiment difficile, dit-il, pour ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. » Mais comprenons-nous bien, Jésus ne condamne pas les richesses. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'argent pour la mission, pour acheter des choses, pour nous nourrir, pour nous vêtir. Et d'ailleurs, dans la parabole des talents, Jésus lui-même ne nous dit-il pas qu'il faut fructifier ce que Dieu nous confie. La question est plutôt comment est-ce que nous nous situons face à ces richesses? Quel rapport entretenons-nous avec ces richesses? Parce que Jésus relève ainsi que trop souvent, ce sont les richesses qui nous possèdent et que bien souvent, elles sont ce que nous n'avons pas partagé avec plus pauvres que nous. De plus, Jésus nous montre encore que bien trop souvent, nos richesses nous placent dans une attitude de suffisance face à Dieu et aux autres et nous confèrent une certaine illusion de toute puissance. Nous finissons peut-être même par nous prendre pour un Dieu. Et à ce sujet, je ne peux m'empêcher de penser à Steve Jobs, le fondateur de la marque Apple et l'inventeur de l'iPhone. Sur son lit de mort, il n'avait que 56 ans. Lui, alors, une des plus grosses fortunes du monde, faisait ce constat. « Avec ma richesse, je peux payer un chauffeur pour me conduire, un cuisinier pour me faire à manger, un jardinier pour entretenir mon jardin. Bref, payer des gens divers pour travailler pour moi. Et même si je voulais, payer tout un quartier de New York. » Mais une chose est certaine, indubitable. Je ne peux pas payer quelqu'un pour mourir à ma place. La mort ne fait pas partie des situations qui peuvent être résolues à coup d'argent. Oui, ce n'est pas l'argent qui va nous sauver. Ce n'est pas les richesses qui vont nous donner la vie éternelle. Oui, sa remarque est un bel écho de cette parole du Christ. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Et le psaume 49 enfonce le clou en disant, « Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. » Frères et sœurs, ce constat est d'une réalité et d'une lucidité implacable. Ce constat nous invite donc à nous poser avec insistance les bonnes questions. Oui, quel est l'objectif que je donne à ma vie? Du coup, quel est le genre de vie que je mène aujourd'hui en vue de la vie éternelle? Oui, Dieu a-t-il une place de choix? Ou n'est-il dans ma vie comme un objet dont je me sers accessoirement quand besoin est? Oui, qu'est-ce qui me manque pour entrer dans la vie éternelle, cette vie avec Jésus? Et il nous faut y apporter des réponses. D'aucuns pourraient se frotter les mains en disant « Cela ne me concerne pas, parce que je ne suis pas riche, je ne possède rien ou je possède peu. » Mais comme Jésus le fait comprendre à ses disciples, la difficulté d'entrer dans le royaume de Dieu n'est pas seulement liée au fait de posséder beaucoup ou rien. Son message est, on ne peut plus clair. Autant pour le riche que pour celui qui possède peu ou rien, l'entrée dans le royaume de Dieu n'est possible que grâce à Dieu. Frères et sœurs, l'entrée dans le royaume de Dieu n'est possible que grâce à Dieu. Oui, celui qui cherche la vie éternelle doit s'en remettre à Dieu à qui tout est possible. Voilà le cœur du message de Jésus qui se veut pour nous une mise en garde. Car bien souvent, comme cet homme, nous aussi nous voulons sans vouloir. La raison est que trop souvent, notre vie est encombrée de bien de choses futiles, faisant de nous des figurants plutôt que des acteurs clés de notre vie de foi. De plus, la capacité à acquérir des richesses ou une position sociale peut nous pousser souvent à penser que nous pouvons faire nous-mêmes notre salut. Frères et sœurs, en effet, dès lors que quelque chose d'autre canalise toutes nos énergies, elle devient notre idole et ferme notre cœur aussi bien aux autres qu'à Dieu. Et cela me fait penser encore à l'histoire de ce paysan avec ses trois ânes qui se rendait au marché pour vendre sa récolte. La ville étant loin, il lui fallait plusieurs jours pour y arriver. Et le premier soir, il décide de camper non loin de la hutte d'un vieil ermite. Au moment d'attacher son dernier âne, il s'aperçoit qu'il n'avait plus de corde. Il se dit, si je ne l'attache pas, demain en me réveillant, je ne le trouverai pas. Il aura disparu. Après avoir attaché les deux autres, il enfourche donc son cheval et il va voir le vieil ermite, lui demandant s'il n'avait pas une corde pour lui. Le vieil ermite l'informa qu'il avait fait vœu de pauvreté depuis des années et qu'il ne possédait même pas une corde. Cependant, il lui donne un conseil. Il lui dit, retourne au campement. Arrivé, refais les gestes habituels que tu fais. Passe la corde au cou, fais semblant de passer la corde au cou de ton âne. Et il insiste en disant, et surtout n'oublie pas de faire semblant de l'attacher à un arbre. Complètement désemparé par ce type de conseil, notre homme retourna dans son camp. Il fit quand même ce que le vieil homme lui a dit. Il fit semblant de passer la corde autour de l'âne et il fit semblant de l'attacher et il s'endormit. Au matin, son premier regard à son réveil, ce fut pour son âne. Alléluia, l'âne était bien là. Il charge donc les trois baudets et il décide de partir. Mais ne voilà-t-il pas que notre troisième âne là refuse de partir? Il a beau tirer dessus, beau le pousser, il ne veut pas avancer. Ne comprenant rien, il retourne voir le vieil ermite et lui raconte sa mésaventure. Le vieil ermite lui dit, mais est-ce que tu as enlevé la corde? Il lui dit, mais il n'y a pas de corde. Il lui dit, mais pour toi non, mais pour l'âne si. Il retourne dans son campement et il refait les gestes qu'il avait faits. Et voilà que l'âne le suit docilement. Fin de l'histoire. Frères et sœurs, ne nous moquons pas de cet âne. Oui, bien souvent, nous aussi, nous sommes liés par des cordes invisibles. Nous sommes bien souvent esclaves de nos habitudes, et surtout pire, des habitudes mentales que nous ne voyons pas. Oui, frères et sœurs, tout ce qui nous empêche de suivre Jésus est mauvais et fait de nous des esclaves. À chacun, selon sa situation, de reconnaître donc le fil ou la corde ou l'énorme chaîne qui le retient. Oui, que dois-je, de quoi dois-je me libérer? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans ma vie? Frères et sœurs, prenons conscience que lorsque nous prendrons conscience que que nous devons, lorsque nous cesserons de vouloir faire pour avoir, au sens de gagner son salut, nous pourrons enfin accueillir le salut que Dieu nous donnera. Et en cela, il nous convient d'écouter attentivement, ou du moins de nous remémorer ce que nous conseille la première et la deuxième lecture. Oui, il s'agit d'abord d'aller à la quête de la sagesse, qui est un mode de vie en accord avec le projet de Dieu. Oui, vivre en accord avec le projet de Dieu, et cela à la lumière de la parole de Dieu qui nous est donnée. Dans le psaume, nous avons médité « Donne-nous la vraie mesure de nos jours ». Oui, de quoi avons-nous vraiment besoin? Comment usons-nous de ce que Dieu met à notre disposition? Demandons au Seigneur de nous éclairer et de nous donner cette grâce, nous aussi, tous les jours, de lui demander la grâce de la vie éternelle, qui nous écoute et nous exauce, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen.